parce que du coup, moi, je t'entends bien.
Bonsoir.
Alors, Chad Kitabo. La paracha parle donc de quelque chose que Moshe dit ici aux Bnei Israël. Il leur dit quelque chose qu'ils vont devoir faire quand ils vont arriver en Eretz Israël. On a l'impression que ce que dit Moshe, la première chose à faire quand on arrive en Eretz Israël. Or, si on y réfléchit un peu, on sait très bien que quand les Bnei Israël sont arrivés au moment d'entrer dans le territoire d'Israël, il y avait encore 7 ans de conquête de ce territoire. Et après ces 7 ans de conquête, on a mis encore 7 ans pour partager Eretz Israël entre les différentes tribus. Donc c'est pas la première chose qu'on va faire d'apporter des bikourim, c'est-à-dire d'apporter les premiers fruits des arbres. Est-ce que c'est les arbres qu'il faudra encore avoir planté, ou est-ce que ce sont des arbres qu'on va trouver déjà plantés, donc qui vont donner des fruits? Donc, a priori, c'est un peu étonnant que ça se présente ici comme étant justement enfin, la chose à faire quand vous arrivez en Eretz Israël. Alors, Rashi, lui, il entend, regardez le Rashi. Rashi dit, Vaya ki tavo. Alors, il faut lire un peu plus que ce que j'ai lu. Ki tavo el haaretz, asher Hashem Elokecha noten lecha, nachala, qu'Hashem ton Dieu te donne en héritage, virishta, et tu vas effectivement prendre possession de cette terre, via Shavtaba, et tu y habiteras. Et à ce moment-là, Velakarta mireshit kol pri ha'adama, asher tavim me'artzecha, asher Hashem Elokecha noten lach, v'samta batene, v'alachta el ha'makom, asher yivchar Hashem Elokecha leshaken shmo sham, c'est-à-dire au Bet HaMikdash. Et tu t'adresseras, tu viendras vers le Cohen Asher Yehé Bayamim Ahem, le Cohen qui sera en service à ce moment-là. On se demande pourquoi il faut le dire. D'accord? On peut difficilement aller vers un Cohen qui n'est pas en service parce qu'il est mort, parce qu'il est de la génération précédente. Évidemment, c'est celui qui Asher Yehé Bayamim Ahem. Ve'amarta Eliav, et tu lui feras une déclaration. Donc, cette déclaration, on a l'impression qu'elle est faite, enfin, elle est faite au Cohen. On s'adresse au Cohen. Ve'igata, pardon, ve'amarta Eliav, igati ayom l'Hashem Elokecha. Et on va lui dire, voilà, je raconte, je déclare à Hashem ton Dieu. On a l'impression que on s'adresse au Cohen et on dit, mais en fait, je te prends à témoin quasiment, que je m'adresse devant toi à Hachem, ton Dieu. C'est tout de suite un peu étonnant parce que c'est pourquoi ton Dieu et pas le mien. Alors on va voir tout ça. Je viens dire, qui va-t-il à l'arrêt? Je suis arrivé dans cette terre. Asher nishba Hashem l'avoteinu, la tête là nous, qu'Hashem notre Dieu, pardon, qu'Hashem lui-même, sans pas préciser, voilà, qu'Hashem avait juré à nos ancêtres de nous la donner, cette terre. Et on va lui donner au Cohen, Atene miyadecha, tu lui donneras le panier dans lequel tu avais mis les prémices en question, et Bikurim en question, Vinicholifne Mizbah Hashem Elokecha, et il va le déposer devant l'autel d'Hachem ton Dieu. Ve'anita ve'amarta, et tu, à ce moment-là, littéralement, tu vas répondre, tu vas parler, et tu diras, a priori, on apprendra qu'il faudra le, il faut le dire à haute voix, Lifnei Hashem Elokecha, devant Hashem ton Dieu, alors la fameuse déclaration Arami Oved Avi, que l'araméen voulait anéantir mon ancêtre. Et mon ancêtre, finalement, il est descendu en Égypte, il y a habité, peu nombreux, petit nombre de gens, et là-bas, en Égypte, il est devenu un grand peuple, puissant, très nombreux. Et alors, du coup, les Égyptiens nous ont fait du mal. Et ils nous ont opprimés, ils nous ont donné des travaux difficiles à faire. Et nous, nous avons crié vers Hachem, c'est-à-dire nous avons prié Hachem, Eloki Avotenu, le Dieu de nos pères. Vaishma Hachem El Koleinu, Hachem a entendu notre voix, il a vu. Il a vu notre détresse, notre souffrance, et en fait, il a vu aussi enfin, le dur travail que nous devions faire et la pression qui était faite sur nous. Et Hachem nous a sortis d'Égypte, toute cette déclaration, on la connaît bien de la Haggadah de Pessah. Et il nous a amenés à la Makom Hazeh, à cet endroit-là. D'accord? Il se trouve, il est là dans le Beth Amikdash. Donc, Hachem nous a amenés dans le Beth Amikdash. Et il nous a donné cette terre-là. Donc il nous a amené à cet endroit-là où il y a le Beth Amikdash. Il nous a donné cette terre-là, terre Zavat Chalav Udvash, où coule le lait et le miel. Et voilà maintenant, Evet yet Reshit Pri Adama, et voilà maintenant, j'ai amené les prémices des fruits de la terre que tu m'as donné, Hachem, vinarto lifne Hachem Elokecha, et tu le poseras devant Hachem ton Dieu, vishtachvita lifne Hachem Elokecha, et tu te prosterneras devant Hachem ton Dieu. Alors on va voir très bien ce qu'il faut qu'il pose devant Hachem, puisque le Kohen l'a déjà posé plus haut. Et puis vient ici une déclaration importante. Vesamarta bechol atov asher natan lecha Hashem Elokecha ulvetecha. Tu te réjouiras de tout le bien qu'Hashem, ton Dieu, t'a donné, à toi et à ta maison, et aussi au Lévi, à l'étranger, à Sherbekirbecha, aux Lévi à l'étranger qui sont dans ton sein. Donc voilà la paracha qu'on appelle la paracha de Bikurim. Alors Rashi, pour revenir à ce Rashi, Rashi dit sur Magid Shelo Nirtraivu Bikurim, Abshe Kavshu et Haaretz, Vechilkua, Ça vient nous enseigner que les Bnei Israël ne sont astreints à amener les Bikourim qu'après qu'ils aient conquis la terre et qu'ils l'aient partagée entre les tribus. Ça y déduit du fait qu'il y a cette longueur qui est que il y a Rashtab et il y a Shavtaba. Il faut bien sûr prendre possession de la terre et l'habiter. Donc, l'habiter, ça veut dire habiter tribu par tribu, après le partage de la terre entre tribus. Dans le texte, c'est marqué « Velakarta, tu prendras mes réchites ». Des prémices, Kol Pri Adama, des prémices de tous les fruits de la terre. Donc on voit ici, tu prendras des prémices et pas les prémices. C'est-à-dire, on ne prendra pas tous les premiers fruits, mais une partie. C'est ce que dit Rashi, Velo Kol Reshit, Shen Kol HaPerot Chayavin Bebikurim. Alors ici, qu'est-ce que ça veut dire? Tu prendras pas tous les prémices. Ça veut dire tu ne prendras pas les prémices de toutes les sortes de fruits que la terre aura produits, mais tu n'amèneras des prémices que Shivat Aminim Bilvad, que les sept espèces, uniquement de ces sept espèces. C'est-à-dire le blé, l'orge, etc., les fameuses espèces sur lesquelles, par exemple, il y a une longue bracha à Parona. Neymar, d'où est-ce qu'on sait? Neymar kan Eretz, dans le passouk c'est marqué Eretz. Venemar lealan, Eretz chita ou sera. Et plus bas, on va parler de la terre qui produit le blé, l'orge, etc. De la même manière que les dinim qui sont dits plus bas, on va le voir. Bon, en fait, ça a été dit, c'est pas plus bas, c'est marqué Lehalan, mais en fait, c'est plus haut. Ma Lehalan mi shivam aminim, shenishtabchu bahen eretz Israël, de la même manière que dans l'autre référence, ce sont les sept espèces qui font la gloire d'Eretz Israël. Ici aussi, il s'agit de ce qui est la gloire d'Eretz Israël. Shen Shivat Aminim, qui sont les fameuses sept espèces.
On apprend par analogie.
On apprend par oui, parce que dans les deux cas, il y a le mot Eretz et le mot Eretz, et ici Eretz c'est les sept espèces, alors là aussi les Eretz c'est les sept espèces. Zera Alors Rashi précise que Dvash, c'est non pas le miel d'abeille, mais le miel des dattes. Et comment on fait? Il raconte, Adam yored le tor sadehu, veroé teena shebikra. L'homme y va dans son champ et il voit une première figue. Korech aleagemi le siman. Donc il lui met un petit ruban pour montrer que c'est elle, c'est ce fruit-là qui est le premier. Et il dit, Arezé Bikurim. Et il déclare, ce fruit-là sera Bikurim. Alors il y a cette redondance-là, Akohen, Asher Yehé Bayamim Ahem. On ne sait pas pourquoi il faut dire qu'il peut pas aller vers le Kohen qui n'existe pas à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ein lecha ela Kohen shebimach beyamecha. Comment chez vous? Alors, on apprend que tu iras chez le Kohen, même si ce Kohen, c'est pas la lumière du siècle, il n'est pas comparable à ce qu'on savait des Kohanim des générations précédentes. L'essentiel, c'est qu'il soit Kohen. On ne demande pas plus. Donc, c'est le Kohen qu'on a devant nous. Et alors, Rachidi dit quelque chose de très important. Ve'amarta elav, et tu lui diras à lui, She'encha kafui tova. Pourquoi il faut lui dire à lui? Je viens lui dire à lui que je ne suis pas ingrat. Mais est-ce que ça n'aurait pas suffi qu'il fasse la déclaration à Hachem? Voilà, Hachem m'a donné et moi maintenant j'apporte les bikourim. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on dise, il doit s'adresser au Cohen pour lui dire je vais parler à Hachem, etc. C'est ça la déclaration qui montre qu'il n'est pas ingrat. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui ressente cette expression de la gratitude. Il faut que ça soit dit. Comme si ici il faudra comprendre dans quel cas effectivement la gratitude doit obligatoirement être exprimée à quelqu'un. Est-ce qu'on ne peut pas se contenter d'exprimer sa gratitude par un geste? Là, il est en train de faire un geste, plus il amène les fruits, plus une déclaration. La déclaration, elle est à Hachem, mais pourquoi on ne dit pas qu'elle. La déclaration en question, elle parle toute seule. Pourquoi faut-il que s'adresse au Cohen, en fait? Donc, a priori, c'est pas très clair. Vous voyez, ce qu'on voit, c'est que il faut le dire à quelqu'un. Alors, est-ce que c'est toujours comme ça? La gratitude doit s'exprimer devant un homme. Il suffit pas que je l'exprime devant Hachem. Il faut qu'elle existe dans les relations, enfin, qu'elle soit mentionnée dans les relations interhumaines. Le problème de la gratitude, on en a déjà parlé plusieurs fois. Ici, ce qui est dit, c'est pas de dire que j'exprime ma gratitude, mais je ne suis pas ingrat. Pourquoi il faut se dédouaner en quelque sorte? Je suis pas ingrat. Je suis venu exprimer ma gratitude. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il lui dise je suis pas ingrat? Parce qu'en fait, l'ingratitude, d'une certaine manière, c'est une espèce de tare qui colle à la peau de l'humanité depuis le début. Chazal dit qu'Adam Arishon, kafui tova haya. Adam Arishon était ingrat. Et à la limite, donc, d'une certaine façon, la vraie faute d'Adam Arishon, c'est ce problème d'ingratitude. Le fait qu'il ait mangé du fruit dont il ne devait pas manger, d'accord, c'était pas bien, mais d'une certaine manière, il n'a pas fait ça tout seul. Vous avez déjà dit qu'il y a même un midrash qui dit que, en fait, Chava, quand elle a mangé, pardon. Chava, quand elle a mangé le fruit et qu'elle a compris que elle a dû le sentir, que du coup elle était devenue mortelle, elle s'est dit donc je vais donc mourir. Et dans un réflexe purement féminin, Il a dit quoi? Je vais mourir et il va prendre une autre femme? En question. Si je meurs, il faut qu'il meure aussi. Et donc, pour qu'il meure, elle lui a donné à manger. Et certains disent, dans le Midrash, il y a des Midrashim qui disent qu'elle a eu peur que il lui pose une question, qu'est-ce que c'est que ce fruit-là? Alors, elle l'a réduit en purée. Elle lui a donné le fruit en purée. Et là, il n'a pas demandé de quoi était faite cette purée. Mais en fait, ce que Chazal disent, Aya kafui tova. Donc, cette espèce d'une tare qui colle à la peau de l'humanité depuis le début de l'humanité. C'est intéressant que on peut dire que toutes les offrandes qui ont été offertes, comme vous savez, depuis Adam jusqu'à Abraham Avinu, il y a eu des korbanot depuis à tout le temps. Adam, Caïn, Hevel, Noah, tout le monde. Tout le monde a apporté des korbanot. Mais les korbanot qu'on apportait à ce moment-là, c'était des offrandes. C'était des cadeaux à Hachem, c'est-à-dire l'expression de la gratitude. Hachem, tu me donnes, et moi je fais le geste de te donner aussi. Et quelque part, comme évidemment, je sais bien que ce que je te donne, ça n'est que quelque chose que tu m'as donné, mais malgré tout, le geste est là. Je ne peux pas donner autre chose que quelque chose qui m'a été donné. Je ne peux pas créer quelque chose qui n'est pas préalablement été créé par toi, quelque part, ou avec un matériau qui n'a pas été créé par Hachem. Et donc je fais ce que je peux, mais j'exprime une forme de reconnaissance. Là, on ne dit pas qu'ils ont dit, nous ne sommes pas. Les offrandes, j'ai pas vu le texte qui dise qu'ils ont apporté ces offrandes pour ne pas apparaître comme ingrat. Je ne suis pas ingrat, la preuve, j'apporte des offrandes. Ça, c'est jusqu'à Abraham. Abraham aussi va apporter des korbanot qui sont des offrandes, mais lui, il a donc inventé le korban de substitution quand il a substitué le bélier à Yitzhak Avinu. Donc, c'est une nouvelle sorte de korban, qui ne veut pas dire qu'il n'a pas continué d'apporter aussi des korbanot offrandes, c'est-à-dire expression de nos reconnaissances. Mais là, la première fois où quelqu'un dit quasiment la reconnaissance, c'est Léa. C'est Léa avec son fils Yehuda. Léa, quand elle prend conscience qu'en fait, elle a déjà plus de fils qu'elle devait en avoir, puisque Yaakov a des enfants avec quatre femmes, Rachel et Léa et les deux servantes. Donc, comme il devait y avoir, tout le monde savait qu'il devait y avoir 12 tribu, elle, quand elle a son quatrième enfant, 12 divisé par 4, c'est 3. Donc, quand elle a le quatrième, elle dit, j'en ai plus que. Et du coup, elle exprime sa reconnaissance, puisqu'elle donne ce nom de Yehuda qui veut dire reconnaissance. Là, elle le dit. Alors, ici aussi, il faut faire une déclaration au Cohen. Je ne suis pas. En quelque part, je montre que je ne suis pas je me suis arraché à une certaine un certain défaut inhérent à la qualité humaine, semble-t-il, parce que Si on dit que Adam était Kafoui Tova, ça veut dire qu'il y a une tendance à être Kafoui Tova. Sinon. Ah non? Donc il déclare, je me suis arraché à cette espèce de comment on dit, de tendance naturelle de l'homme à être Kafoui Tova. Il y a un dicton qui dit je ne sais pas pourquoi ils m'en veulent tellement, je leur ai pourtant jamais rendu service. Ça veut dire que il y a cette situation où non seulement on est Kafoui Tova, mais à la limite on en veut à celui qui, par son existence, me rappelle qu'il m'a rendu service. Et donc, il faut que je le fasse disparaître, qu'on fasse disparaître la trace de ce que je suis débiteur, quelque part. Et ensuite, il raconte son histoire. Il raconte l'histoire en commençant par Lavan. Une des lectures de ce Arami Ovedavi, l'araméen en question, une des lectures, c'est de dire que l'araméen en question, c'est Lavan, qui habitait à Aram Naharaïm, donc il est un araméen. Et même Yaakov, qui a habité très longtemps en Aram, même, il y a aussi une lecture qui dit que l'araméen en question, quelque part, c'était aussi un peu Jacob. Mais bon, ici, pour l'instant, on va garder cette lecture-là. Lavan a eu le projet de détruire tout le projet, toute la construction de Klal Israël. Oved, il voulait faire disparaître, détruire complètement mon ancêtre. Mais comme c'est l'ancêtre du peuple juif, donc, il voulait détruire le peuple juif, en fait. Là, c'est très intéressant de remarquer que d'une certaine manière, Lavan, c'est aussi notre ancêtre. Bon, il est le père des quatre femmes de Jacob. Donc il est le grand-père de tous les Bnei Israël. Et c'est ce grand-père-là qui est de facto, il est le père du clan Israël, enfin l'ancêtre du clan Israël. Si on remonte un peu avant les Avot, avant Jacob, disons, alors il y a la génération du père des femmes de Jacob, donc des grands-pères, du grand-père des 12 tribus, et c'est lui, celui qui voulait détruire le clan d'Israël, qui est le géniteur quasiment du clan Israël. De la même manière, si vous voulez, qu'il y a aussi ce paradoxe que celui qui a voulu détruire le libérateur du clan Israël est celui dans le palais duquel ce libérateur du clan Israël a fait toute sa jeunesse. Moshe était élevé dans le palais de Paro. Donc c'est comme si Hachem nous envoyait des clins d'œil pour dire, Alors, d'une part, on peut dire, c'est pour dire que ceux qui ont voulu détruire, en fait, à leur corps défendant, ils ont aidé à construire. Mais on peut aussi dire, peut-être c'est aller un peu plus loin, quelque part, que ça montre encore une fois que le clan d'Israël, d'une certaine manière, il n'aurait pas dû exister, quoi. Bon, le clan d'Israël ne devait pas, il devait pas exister. Abraham n'a pas d'enfant qui est susceptible d'assurer la descendance. Il faut le miracle de la naissance de Yitzhak. Yitzhak, il a failli mourir. Et Abraham n'aurait pas eu de descendant, en tout cas, pas par conception. Peut-être il aurait pu, comme on a vu, je sais pas si c'est avec vous, Abraham aurait pu, s'il avait tué Yitzhak, il aurait pu assurer une descendance en adoptant un enfant. Oh. On n'est pas obligé d'avoir une ascendance par conception, ça peut être par adoption aussi. Ben, l'adoption, de la même manière que si vous voulez, on n'est pas obligatoirement juif parce qu'on est né juif, mais on peut être aussi juif parce qu'on a choisi de l'être.
Mais
On voit bien.
Rav, avant lui, il n'y avait pas eu d'exemple d'adoption.
Qu'est-ce qu'elle dit? J'ai pas compris ce que vous avez dit.
Je dis qu'avant lui, il n'y avait pas eu dans la Torah d'exemple d'adoption. Parce que là,
Parce
vous
que
nous parlez d'adoption, mais on n'en parle pas auparavant.
il n'y a pas d'exemple d'adoption parce que c'était pas nécessaire. Il y en a peut-être eu, mais on n'en parle pas. Peut-être qu'il y a eu des adoptions, mais on n'en parle pas parce que ça n'a pas joué de rôle important.
Mais et après, est-ce qu'on a des exemples d'adoption?
Pardon?
Est-ce qu'après, dans les textes, il y a des exemples d'adoption, d'un fils adoptif?
Oui, il y a des enfants qui ont été élevés par des mères de substitution, abayé, etc. Il y avait
Oui,
des.
Rav, mais là
Pardon?
on dit élevé par. Bon, parce que
Ah,
on
dans le
dit.
Chumash, bon, je ne vois pas dans le Chumash, mais il n'y en a pas eu parce qu'il n'y avait pas besoin. On n'a pas eu besoin. Ça ne veut pas dire que. Je ne dis pas que il aurait fait cela. C'est de l'histoire fiction, j'en sais rien. Et Abraham Avinu, il n'a pas eu besoin de faire cela puisque Yitzhak n'est pas mort. Donc, ce n'était pas nécessaire de le faire. Mais. Je vous ai dit déjà dans notre chiour que quand on réfléchit, à un moment donné, quand Hachem a dit à Abraham qu'il allait avoir un enfant, Abraham a dit à Hachem, mais pourquoi faire un miracle que deux grands vieillards vont avoir un enfant? Peut-être tu donnes un coup de pouce pour que Ishmaël devienne un type bien. Il y a là, voilà, j'ai mon enfant. Il est là, il n'est pas bien, il n'est pas complètement bien. Alors donne-lui un coup de pouce au lieu de faire un miracle, de faire sortir, d'avoir un enfant. Et Hachem a répondu à Abraham, non, ton descendant, ton successeur, ça doit être un enfant que tu auras eu avec Sarah. Ça veut dire qu'Abraham a envisagé la possibilité que le clan d'Israël se construise avec lui et pas avec Sarah. Quelque part, il y avait chez Abraham cette possibilité. Et c'est cette possibilité que Sarah a reproché à Abraham Avinu. Sarah a dit à Abraham, quand tu n'avais pas d'enfant, tu as prié, tu as demandé à Hachem qu'il t'envoie un enfant. Si tu avais prié qu'il nous envoie un enfant, on aurait eu un enfant à nous deux. Quand toi t'as prié pour avoir un enfant, Hachem t'a envoyé un enfant. Et Sarah a dit à, elle a dit à Abraham Avinu, Chamas Yalecha. Et comme je vous ai déjà dit sous plusieurs fois, Sarah a massacré Abraham à ce moment-là. Elle l'a passé à tabac. Cassé la figure. Et donc, c'est bien que Sarah, elle a compris qu'il y avait quelque chose chez Abraham, une possibilité, peut-être même pas totalement consciente, mais d'accord, d'envisager que le clan Israël, avec tout ce que Sarah a fait pour lui, etc., et qu'ils ont fait ensemble, il a envisagé que le clan Israël se construise avec lui et sans Sarah. Je ne sais pas si dans cette optique-là, il pensait que la Rebetzin, ce serait une Rebetzin Hagar. D'accord, mais peut-être elle aurait été simplement celle qui a mis l'enfant au monde, mais il aurait, lui, éduqué sans son aide à elle. Je ne sais pas ce qui serait passé. Qu'est-ce quoi, Sarah? Elle a compris qu'elle voulait en être. Elle l'a compris, peut-être qu'elle a compris que le clan d'Israël doit se construire avec ce qu'elle pouvait apporter, elle. Si vous voulez, d'une certaine manière, on pourrait, allez, si je voulais aller plus loin, je dirais, on peut comprendre qu'Abraham ait pensé qu'on peut faire sans Sarah, parce que Sarah, elle n'est pas vraiment quelqu'un de complètement extérieur à Abraham, c'est sa nièce. D'accord? Donc, elle a quand même beaucoup de commun, beaucoup en commun avec lui. Elle est la fille de son frère. Et d'une certaine manière, c'est presque Abraham qui l'a éduquée, puisque son frère est mort. Donc on pourrait se dire que la contribution de Sarah dans la constitution du clan d'Israël, c'est pas la contribution de quelqu'un, un élément complètement extérieur à Abraham, qui viendrait s'ajouter à Abraham pour fabriquer le clan d'Israël. C'est un élément qui est déjà très proche, en tout cas, déjà d'Abraham. Et si vous voulez, on voit bien que Avram, il lui propose d'être, dit que tu es ma sœur. Ça veut dire, tu es ma femme, mais dis que tu es ma sœur. En fait, est-ce que c'est un mensonge? Avram Avinu, quand il parle de Lot, il dit, Achim Anachim, nous sommes des frères. Mais Lot, c'est le frère de Sarah. Donc s'il est frère avec Lot, il est frère aussi avec Sarah. C'est-à-dire que neveu ou fils ou fille, nièce, fille, c'est très proche. Et c'est le chidouche est qu'effectivement, un homme peut épouser sa nièce. Et que c'est quand même c'est pas un inceste. C'est pas suffisamment proche de l'inceste pour que ce soit interdit. Intuitivement, on pourrait dire, en tout cas de ce qu'on en voit dans la Torah, il y a une telle proximité entre l'oncle et la nièce, si vous voulez, qu'on pourrait se demander pourquoi est-ce que c'est pas considéré comme incestueux. Il y a des choses qui me paraissent bien plus lointaines et qui sont considérées comme erva, comme incestueuses, alors que ça, c'est proche et ça n'est pas constitué, sinon ce serait interdit. Bon, tout ça, c'est un peu de la fiction, quoi, mais c'est quand même comme ça, quand on regarde les choses d'un peu plus près, on voit apparaître tous ces problèmes-là. Alors il dit, Lavanne voulait détruire mon père, c'est-à-dire mon ancêtre. Alors Rachid dit, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit, Umaskir chasdei hamakom. Lavanne bikesh la'akor et hakol. Quand il a poursuivi Yaakov, qu'il a rattrapé Jacob, il lui a dit, tes femmes, c'est mes filles, c'est à moi. Tes enfants, ils sont à moi. Tes troupeaux, ils sont à moi. Tout est à moi ici. Tu n'existes pas. Alors Rachid dit, ובשביל שחשב לעשות, חישב לו המקום כאילו עשה. Parce que le texte Arami Oved Avi, c'est pas il a projeté de le faire. Non. Arami Oved. L'araméen, il tue, il détruit mon père. C'est parce que, vous voyez, dans la traduction de Hard Scroll, ils ont mis un araméen a et le voulu, ils l'ont mis en parenthèse parce que le texte, il dit pas voulu, le texte, il dit Arami Oved. Et donc, c'est ça que Rashi vient expliquer. Pourquoi est-ce que c'est marqué Oved? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a considéré que la volonté de destruction de Lavanne, il la lui a considérée comme s'il l'avait fait. La Torah dit que c'est ça qu'on va dire. C'est impressionnant. Voilà, c'est la déclaration qu'on fait, c'est Aram, mais il ne l'a pas fait. Il a voulu le faire. Quand il est arrivé, il a dit, Yesh le il a dit, j'ai les moyens de te tuer. Mais après, il dit, mais Hachem m'a interdit. Mon maître, il disait, tu vois la chutzpah de ce Navan? Et Hachem lui a interdit la nuit précédente, il lui a interdit, et il vient dire Yesh le Eliadi. Sa gava, son orgueil, il fait comme. Tu n'as pas, tu peux pas, toi-même, après, tu es obligé de dire, mais Hachem l'a interdit, alors je ne peux pas le faire. Mais ce que dit Rachi ici, c'est il a tellement voulu le faire qu'Hachem lui a conté ça. C'est comme si tu l'avais fait. Parce qu'en fait, si Hachem ne lui avait pas interdit, il l'aurait fait. Donc, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte d'abord, on a voulu nous empêcher d'exister. Ensuite, on est descendu en Égypte. Et à ce moment-là, on a passé de petite famille, 70 personnes, à un peuple très nombreux et très puissant, effrayant pour les Égyptiens. Et donc, ils nous ont maltraités. Donc, les ennuis avec Laban, les ennuis avec les Égyptiens, Dans les deux cas, Hachem nous a sauvés. Il a empêché Laban de le faire et il a empêché l'Égypte de nous détruire complètement. Il nous a sortis avant que nous soyons complètement assimilés par les Égyptiens. Et ensuite, il y a un raccourci énorme. Il nous a conduits en ce lieu. Donc voilà, on est sortis d'Égypte et il nous a amenés en Eretz Israël. Moi, il m'a amené donc. Maintenant, il m'a amené jusqu'à Yerushalayim. Je suis au Beth Amikdash. Ce n'est pas n'importe quel pays, c'est le fameux pays où coule le lait et le miel. Et maintenant, voici. J'ai apporté les prémices des fruits de la terre que tu m'as donnés à Hachem. Vous voyez, il y a un leitmotiv de répéter sans arrêt, c'est Hachem qui a donné, Hachem a donné, Hachem a donné. Cette terre-là, c'est Hachem qui l'a donnée. Et tu te prosterneras devant Hachem. Cette prosternation, se prosterner devant, c'est le reconnaître comme Dieu. Alors, on s'arrête sur le fait que ils disent Hachem ton Dieu, il dit au Cohen. Alors on dit, et il le rapporte ici dans la traduction de Hard Scroll. Ça veut dire que Hachem ton Dieu, c'est-à-dire c'est mettre en évidence la relation particulière du Cohen avec Hachem. C'est une relation de proximité. Le Sforno va dire que le Cohen est un représentant d'Hachem. En fait, les Chachamim posent une question. Quand vous apportez un korban, alors vous allez au Beth Amikdash, vous apportez ce korban et vous allez le confier à un Kohen, qui lui va faire toute la procédure qu'on doit faire avec le korban, procédure que vous ne pouvez pas faire vous-même, vous ne pouvez même pas entrer éventuellement dans l'endroit où ça se fait. Et donc, Chazal demande, est-ce que les Kohanim sont les représentants du clan Israël ou est-ce qu'ils sont les représentants d'Hachem? Les Kohanim, ce sont des Bnei Israël. C'est une partie des Bnei Israël. Donc, on pourrait penser, ils sont une espèce de délégués du clan Israël pour faire quelque chose qui normalement incombe à tout le clan Israël, et le clan Israël délègue les Kohanim pour faire le job. Et donc là, je vois les Kohanim comme Shluchei Didan, ça veut dire comme nos envoyés. Mais on peut dire autrement, c'est qu'en vérité, les Kohanim représentent Hachem, puisque je considère que quand j'ai apporté les choses au Kohen, voilà, j'ai apporté les choses à Hachem. Je ne fais plus rien. Moi, j'ai une obligation d'apporter à Hachem, et concrètement, qu'est-ce que je fais? Dès que j'arrive au Beth Amikdash, je le confie au Kohen. Je peux dire donc que le Kohen, il est le shliach d'Hachem. Et on la halakha, elle dit qu'ils sont shliach d'Hachem. C'est ce qu'il dit ici. Il est le représentant, ce que dit Sforno. Il est le représentant d'Hachem. Si vous voulez, on voit bien le problème que ça pose. C'est qu'il y a une certaine ambiguïté cette espèce de... Comment on peut être représentant d'Hachem quelque part? Alors, peut-être que le vrai problème, c'est que d'une certaine manière, être représentant du clan Israël ou bien être représentant d'Hachem, c'est peut-être un peu la même chose, dans la mesure où il y a un problème général sur tout ce qu'on appelle Avoda, tout le service d'Hachem. Donc, ça veut dire on se présente comme si on était, on allait servir Hachem. Mais on ne sert Hachem qu'avec des choses qui lui appartiennent. D'ailleurs, nous-mêmes, d'une certaine manière, nous lui appartenons. Parce que nous ne sommes pas faits tout seuls. Même si je considère que je suis l'enfant de mes parents, mais il y avait un troisième choutaf. Il y a un troisième co-auteur qui est Akadosh Baruch Hu. Et donc il y a là, si on va jusqu'au bout, c'est paradoxal parce que c'est comme si Hachem qui se servait, Hachem se sert lui-même, quoi. Puisque tout ce qui se fait avec ce que lui nous permet de faire. Et ça, c'est le jeu du monde, quoi. Pardon? Justement. Oui. Pardon? Oui, ils sont les représentants des représentants. Le problème de la reconnaissance, il est un peu plus compliqué que ce qu'on peut croire, dans la mesure où vous vous souvenez que quand Hachem a ordonné à Moshe de d'appliquer la première plaie en Égypte, c'est-à-dire de changer les eaux en sang. C'est pas Moshe qui a transformé les eaux en sang. Parce que dit Razal, Moshe, il avait une dette de reconnaissance à l'égard du Nil, puisque le Nil, d'une certaine manière, l'a protégé. Dans la mesure où il a été confié au Nil par ses parents pour échapper aux flics égyptiens qui le cherchaient pour pouvoir le tuer. Et donc Moshe doit exprimer sa reconnaissance et il ne peut pas frapper l'eau. Parce que frapper, en Égypte, frapper l'eau, c'est frapper le Nil. Et ça, il ne peut pas le faire. Et donc, il y a un karatatov, c'est quelque chose d'absolument fondamentale, puisque d'une certaine manière, alors si la Hakarat HaTov, elle doit s'appliquer à l'égard du Nil, or le Nil, il s'en fiche. D'accord? Donc ça veut dire que la raison pour laquelle je dois exprimer ma reconnaissance, c'est pour moi-même. D'accord? C'est pas que l'autre, il a besoin que je le reconnaisse. Que je reconnaisse qu'il m'a aidé. Mais moi, j'ai besoin de le reconnaître. Mais reconnaître, ici, c'est montrer que je ne me suffis pas à moi-même. Voilà, c'est ça. Alors, ce qui est dit à la fin de cette paracha, c'est marqué Vesamachta b'cholatov, Asher Natan lecha Hashem Elokecha ulbetecha. Tu te réjouiras avec tout le bien qu'Hachem, ton Dieu, t'a donné à toi, à ta maison, aux Lévis, à l'étranger qui sont dans ta maison, qui vivent avec toi. Alors, comme c'est marqué, tu te réjouiras, c'est toujours un problème. Comment on peut prescrire à quelqu'un de se réjouir? Est-ce que se réjouir, c'est pas quelque chose qui est naturel? C'est-à-dire, où je me réjouis ou je me réjouis pas? Est-ce qu'on peut prescrire? Bien entendu, il ne s'agit pas de sauter en l'air en criant « je me réjouis » ou de porter un badge sur lequel c'est marqué « je me réjouis ». C'est quoi cette prescription? Réjouis-toi. Rachid dit que ce qu'on en apprend, c'est la chose suivante. Mikan Amrou, En Korin Mikra Megillah. On ne lit pas le texte des Bikurim. Et la Bizman Asimcha. On le lit que quand on est dans la période de la réjouissance, de la joie. C'est-à-dire entre Shavuot et Sukkot. Chez Adam, Melaket, Touato, Perotav, Yeno, Shamno, c'est l'époque des récoltes. Et donc l'homme, il se réjouit parce que c'est pendant, durant cette période-là qu'il fait la récolte de tout. Mais à partir de Soukhot, on doit toujours apporter les bikourim, mais on peut pas, mais on va pas lire le texte. Ça s'appelle Mevi ve'eno koré. On amène, mais on lit pas le texte. Parce que c'est marqué Samarta. Et donc, ça veut dire, Chazal ont compris que on peut pas prescrire de se réjouir. Du coup, quand la Torah dit tu te réjouiras, ça ne peut pas vouloir dire tu vas te réjouir. Et donc, il faut trouver une autre lecture de « tu te réjouiras », ça veut dire « ces bikourim que je te prescris d'amener, tu les amèneras parfaitement que durant la saison où on se réjouit. Après, tu vas les amener en dehors de cette saison-là, après Soukhot, on dit jusqu'à Hanouka, tu peux apporter les bikourim, mais entre Soukhot et Hanouka, on amène les bikourim, mais il n'y a pas de déclaration. Le monde, il est plein de plaisirs. Certains sont des réalités, d'autres sont des fantaisies, Dans la Gemara, dans Brachot, à la fin de Brachot, la Gemara, elle dit que une mauvaise personne, on lui envoie des rêves durant lequel il, dans le rêve, il prend des plaisirs, de telle sorte que ce soit le bien auquel il a droit pour les mitzvot qu'il a faites. Parce que quelqu'un de, même les méchants, etc., ils font toujours quand même un peu de mitzvot. Et cet un peu de mitzvot mérite un salaire. Alors leur salaire, on le leur envoie sous forme de rêves durant lesquels ils prennent du plaisir. C'est-à-dire qu'en fait, une vision complètement déconnectée de la réalité, c'est aussi une source de plaisir. C'est-à-dire qu'il peut y avoir du plaisir à rêver à des plaisirs. Les gens sont fondamentalement des gens qui recherchent le plaisir. Et la vérité est, comme le Messie HaTesharim le dit au tout début, en fait, le bruit, le but de la création du monde, c'est de jouir du monde, et il faut en jouir comme conséquence de nos actions, pour que ce ne soit pas le fameux pain de la honte. Et ultimement, qu'est-ce que nous on décrit comme étant le plaisir du monde à venir, c'est-à-dire le plaisir dans le monde qui est fait que pour le plaisir, on dit c'est un plaisir qu'on tirera de l'éclat de la présence divine. On va se retrouver dans, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on va se retrouver dans une situation où on va jouir de l'éclat de la présence divine. Il y a certains qui pensent que la récompense dans le monde à venir, c'est d'avoir 70 vierges ou des trucs comme ça. La récompense dans le clan d'Israël, c'est de jouir de la présence divine. Mais bien sûr que tous les plaisirs ne sont pas égaux. Un ivrogne, il va prendre son plaisir en buvant encore une bouteille de son alcool favori. Mais après cela, ben il va être malade, il va vomir, ou il va s'endormir dans couvert éventuellement de son vomi, etc. Donc son plaisir, il sera de relativement courte durée. De quoi le? Qu'on dit qu'on doit se réjouir? Ah, ça c'est la fin de Brachot. C'est page 55B. La singularité de la Torah, c'est qu'elle est censée nous amener à des plaisirs qui sont durables, d'une vraie joie, une vraie satisfaction. Et d'une certaine manière, la paracha de cette semaine, C'est un manuel dans cette direction-là. Elle commence avec la mitzvah de Bikurim. C'est-à-dire, et on te dit, tu dois te réjouir avec tout le bien qu'Hachem, ton Dieu, t'a donné à toi et à ta maison et aux Lévi et à l'étranger. La Torah nous dit que nous devons apprécier et nous réjouir avec tout ce qu'Hachem nous donne. La paracha, elle continue avec ce qui s'appelle Vidui Maaser. C'est-à-dire, c'est une déclaration de nouveau dans laquelle l'homme dit, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire. Ça veut dire, je me suis réjoui, dit Rashi, et j'ai rendu joyeux les autres. On parle de ce qu'il fallait donner aux Cohen, aux Lévi, aux pauvres, etc. Ensuite, la Torah, elle énumère les bénédictions et les malédictions associées avec enfin, qui sont liées à l'accomplissement des mitzvot. On sait bien que la récompense pour les mitzvot, elle est dans l'Olam Haba. Et par conséquent, de quoi il s'agit quand on nous parle de tout ce qu'Hachem nous donne dans ce monde-ci? Ça ne peut pas être vu comme une récompense pour les mitzvot. Les Baal et Moussar, ils disent que les bénédictions qui sont mentionnées dans la Torah ne sont pas du salaire pour les mitzvot. Eux, ils présentent ça comme étant une conséquence automatique des mitzvot. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui est sur une autoroute, il va passer devant des stations-service qui, effectivement, offrent toutes sortes de bonnes choses. Pas seulement du carburant, mais on peut acheter toutes sortes de bonnes choses. Alors que celui qui va aller sur des chemins de traverse, lui, il va avoir éventuellement des bosses et des passages difficiles. La Torah, elle nous dit comment traverser le monde, en vérité, de la bonne façon. Alors, il y a quand même dans cette paracha une liste impressionnante de klalot. Alors, là aussi, je vous rappelle que les klalot, elles ne viennent pas parce qu'on n'a pas fait les mitzvot. Dans le texte, il est dit, au pasouk Mem Zayin de chapitre Kafret, parce que tu n'as pas servi Hachem dans la joie. Simcha ou Betouv Levav, avec un cœur en plein de bonté, Berov Kol, tu avais tout et tu n'as pas été capable de te réjouir vraiment et de servir Hachem dans la joie. La Torah, elle demande, c'est pas explicite, mais la vraie joie, le vrai contentement, il est dans la Torah. Comment est-ce possible que tu n'as pas trouvé ta joie dans la Torah? Est-ce que tu as fait les mitzvot? Par exemple, les gens qui font les mitzvot, c'est assez dur. Les gens qui feraient les mitzvot par devoir seulement, d'accord, pour s'acquitter, voilà, avec la même joie que celle qu'on a quand on paye ses impôts, il y a des gens qui se réjouissent, mais en vérité, Si on connaissait vraiment à quoi servent les impôts et que on puisse être d'accord avec l'investissement, on devrait se réjouir. Bon, ça veut dire on participe à quelque chose d'important. C'est juste qu'on n'y croit pas, c'est tout. À la fin de la paracha, si on regarde le Targum, ça veut dire, tu dois garder les paroles de cette alliance et tu dois faire ce qui est à faire de telle sorte que tu réussisses dans tout ce que tu vas entreprendre. Le succès en question, c'est une des définitions en quelque sorte de la joie et du contentement. Si effectivement il y a un plein succès, c'est qu'on l'a fait vraiment comme il fallait. Pour beaucoup de gens, la joie, c'est limité à écouter de la musique ou à lire un bon bouquin. On a fait des sondages, on a demandé aux gens, c'est quoi le bonheur, la joie? Est-ce que vous êtes joyeux? Et la plupart ont répondu que la joie, c'est la stabilité financière. Et il y a seulement 8% de gens qui ont répondu qu'ils étaient joyeux. Et la Torah nous dit que qu'elle nous donne toute une suite d'événements qui sont là pour nous maintenir en joie. Que ce soit l'étude de la Torah, la prière, le Shabbat, les fêtes, toutes sortes d'opportunités qui nous sont données par la Torah.
Merci.